ce qui m'avait surpris, c'était que c'était un pays quand même qui était particulièrement développé, le pays le plus développé d'Amérique latine, et qui d'un coup s'était retrouvé laminé.
L'Argentine se relève péniblement et lentement de la crise économique qui l'a mise à terre à la fin des années 1990 et qui n'est que la conséquence finale d'une politique économique menée depuis 1976. Bien plus qu'une mauvaise passe, il s'agit pour les Argentins d'un bouleversement total qui voit les institutions s'effondrer et le tissu social voler en éclats.
Oui, parce qu'en fait, la crise en 2001... il y a eu ce qu'on a appelé un cacerolazo, c'est-à-dire que tout le monde est sorti dans la rue avec les gamelles vides en réclamant du travail et de quoi manger. Parce qu'en fait, il y avait eu un clash bancaire et donc tous les comptes bancaires étaient bloqués. Puisque avant 2001, l'échange des monnaies, c'était un dollar un peso, ce que, en analysant bien, on savait que c'était faux et que ça ne pouvait pas marcher, mais que le président Menem avait mis en place. Et quand ça a explosé, en fait, il y a eu la crise, tout est tombé, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué les comptes et ensuite ils ont dit que, en fait, celui qui avait 1000 dollars à la banque, il n'avait pas vraiment 1000 dollars, mais il avait 1000 pesos, qui était l'équivalent d'un tiers du montant qu'il avait avant. Donc, ils ont appelé ça la pacification. Et en attendant de faire ça, ils avaient bloqué les comptes bancaires. Donc, la population des classes moyennes a réagi, puisque c'était les personnes qui avaient des épargnes.
L'explosion sociale qui éclate dans toute sa violence en décembre 2001 reflète la prise de conscience de ce saut qualitatif dans la dégradation de la société argentine. Elle traduit la perception qu'une barrière importante a été franchie dans la perte du niveau de vie. Elle n'est au fond que l'expression politique d'un mouvement de résistance beaucoup plus profond, car la population argentine résiste en faisant preuve d'une grande créativité. Face au déchirement du tissu social et à la dégradation de la situation économique, des mouvements d'un nouveau genre voient le jour et de nouveaux liens, plus solidaires que d'habitude, se tissent entre différents secteurs, voire parfois entre différentes classes sociales, que la chute commune regroupe.
C'était surtout ça qui m'intéressait, je trouvais ça intéressant de voir comment les gens s'organisaient pour vivre décemment un minimum, quoi.
Bon, évidemment, tout le monde est sorti dans les places, les peuples a pris l'espace, la place publique dans son sens initial, on va dire, des rencontres, et il y avait beaucoup, beaucoup de discussions. Et c'était un moment de parole assez important, tout le monde parlait de son cas, et c'est de là qu'il y a eu des restos communautaires qui se sont créés. Et il y avait des gens qui n'avaient vraiment pas les moyens d'apporter quelque chose à manger, mais qui mangeaient quand même.
Dans beaucoup de quartiers, il y a encore, en dehors du centre-ville, il y a encore beaucoup de groupes de piqueteros.
Qui étaient les chômeurs qui bloquent les rues pour montrer qu'ils existent et pour réclamer du travail.
Et qui sont en conflit idéologiquement entre eux. Il y en a qui sont très officialistes, qui appuient le gouvernement actuel. D'autres qui refusent toute subvention et d'autres qui ont des positions plus intermédiaires. Enfin, ils sont divisés, mais en tout cas, ils existent encore et ils sont très présents.
Quand je suis rentrée en Argentine en 98, j'ai vu dans les rues un spectacle que l'on ne connaissait pas en Argentine, un spectacle que j'avais vu auparavant à Bogota, et le spectacle des hommes qui charrient sur des vieux chariots de supermarchés des montagnes d'ordures. Il est impossible maintenant dans l'Argentine, d'après les néolibéralismes sauvages, de ne pas les voir. Avant, on pouvait ne pas voir les bidonvilles si on n'avait pas envie. On ne sortait pas dans la, en dehors de Buenos Aires, mais là, les cartoneros, c'est-à-dire les gens qui ramassent les ordures dans les poubelles, sont dans les centres-villes, sont dans les quartiers riches, sont partout. Et là, dernièrement, à Paris, on reçoit tout d'un coup des productions venues des cartoneros eux-mêmes. Ils disent dans leur film, on est fatigué de la vision misérabiliste que le journalisme veut donner de nous. On vient fouiller dans ce que nous avons de pire. On sait très bien que la police vient droguer nos enfants pour les faire voler à leur compte. Le président Kirchner est en train de couper des têtes dans la police, mais ça existe toujours. On sait très bien qu'il y a une misère épouvantable et qu'on est les pieds dans la boue. Mais on ne veut pas nous montrer dans ce que nous avons de constructif. Or, les cartoneros sont montés des entreprises d'une créativité et d'une invention qui les mettent à la tête de ce qu'il y a de plus fort, de plus révigorant en Argentine. Ils fouillent dans les poubelles, d'accord. Il y a des voisins qui ont déjà commencé à mettre de côté ce qui est à manger dans les poubelles et les cartons. Ils recyclent les cartons, ils les vendent dans des entreprises de recyclage, ils s'organisent en communauté et ils se filment eux-mêmes. Ils se photographient eux-mêmes. Dans cette exposition, ce sont des enfants de la Villa Oculta, la Villa Occulte. Et ça s'appelle comme ça parce que l'armée, quand elle avait déposé des gens virés de chez eux dans un terrain vague, avait construit autour un mur pour que la misère ne se voie pas. Et ces enfants se photographient eux-mêmes et ils sont beaux.
Des conseils de quartier se multiplient pour parer aux plus urgents. Des usines désaffectées ou abandonnées par leurs propriétaires sont remises en marche par les travailleurs. Le troc prend des dimensions inouïes. Différents aspects de la vie quotidienne sont réaménagés de manière alternative pour pallier les manques d'un État en faillite.
Dans l'usine qu'on a visitée à Buenos Aires, à l'IMPAI, elle est assez originale cette usine. Donc déjà, c'est une usine récupérée et autogérée.
C'est des usines qui ont fait faillite parce qu'elles appartenaient à des étrangers qui avaient des capitaux en Argentine, par exemple, ou à des Argentins qui n'étaient pas capables de continuer à payer les salaires et donc qui étaient destinés à la fermeture. Et les ouvriers ont décidé que non.
Je crois que le patron était parti avec la caisse. Les ouvriers ont décidé de récupérer l'usine. Il y a eu une affaire avec la justice, ils ont gagné. Donc ils ont pu récupérer l'usine. Il y a beaucoup d'ingénieurs, tous les cadres supérieurs qui ne sont pas revenus. Surtout les employés ou les ouvriers qui sont restés. Et ils ont autogéré l'usine, donc c'est passé en coopérative. Et donc ils ont remis en place la structure, quoi. Ils ont employé de plus en plus de monde. Et quand nous on l'a visité, le salaire moyen était supérieur en fait au salaire moyen en Argentine, quoi.
Con un sueldo de 900 pesos, que es mucho más alto que la media.
Alors que dans la ville de Buenos Aires, où il y a une mairie progressiste avec beaucoup de guillemets, il trouve un certain appui, donc voilà, les usines sont encore là et elles fonctionnent, mais c'est pas le cas dans toutes les provinces. Et il donnait notamment l'exemple de Neuquén dans le sud, où il y avait une usine de céramique qui s'appelle Sanon, qui fonctionne en coopérative et où tout le monde, tous les ouvriers gagnent 900 pesos et tout le monde gagne la même chose. Ce qui est un salaire relativement haut et qui est enfin, beaucoup plus en tout cas que ce que gagne la base.
Ahora que el país parece que se reactiva y que la fábrica funciona, a reclamar por su fábrica.
Et que maintenant que la situation s'est stabilisée un peu, le patron de l'usine revient et veut récupérer son usine maintenant qu'elle tourne et que les ouvriers la font fonctionner.
Des fois, la police a fait des interventions et ils ont dû les abandonner. Mais d'autres fois, ils ont quand même pas mal résisté et il y a des usines qui marchent encore. Et il y en a une notamment où il y a eu des concerts, des rock, ils ont ouvert des salles de répétition. Quand ils ne travaillent pas, ils louent l'usine à des groupes de musique pour qu'ils répètent ou des groupes de théâtre. Donc ils ont fait des usines centres culturels, on va dire.
Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir un centre culturel en plein milieu d'une usine. Ouais, tu vois pas ça, n'importe où. Et il y a une vraie inscription territoriale dans le quartier, quoi. Ils ont en même temps une sorte de service médical ouvert à l'ensemble des habitants du quartier. Il y a une cantine aussi qui est ouverte aux habitants du quartier. Et puis toutes les activités sont ouvertes et sont vraiment pas chères par rapport à ce qu'ils peuvent trouver ailleurs, quoi. Ça va de la poterie, travailler avec le verre. Il y a un studio d'enregistrement de musique. Salle de théâtre, il y a des cours du soir, plusieurs salles d'expo photo. Et il y a aussi tout en haut, dernier étage, il y a un grand espace qui sert en fait pour le cirque. Et donc quand nous on y allait, il y avait des trapézistes qui s'entraînaient, quoi. Et c'était super beau, quoi.
Il y a donc une initiative qui relève plus de l'économie, de la politique et de la production, mais qui a aussi développé un secteur d'intervention ou de création de liens avec les habitants du quartier dans lequel l'usine est implantée et le développement d'activités culturelles et artistiques.
Peut-être qu'à ce moment-là, enfin dans un moment de crise, il y a cette relation qui est beaucoup plus forte.
Il y aurait beaucoup à dire sur la situation du pays aujourd'hui. Il existe un mode d'expression qui parle parfois mieux que tous les autres. L'art. La culture a l'avantage d'utiliser une multitude de canaux pour se faire entendre. Peinture, littérature, photographie, théâtre et cinéma sont quelques-unes des voies de l'art. Elles sont autant de regards sur la réalité dans laquelle les artistes argentins évoluent. Car, tout comme elle a traversé les autres soubresauts qui jalonnent l'histoire du pays, la culture et la création artistique ne se sont pas arrêtées avec cette crise. Bien au contraire. Si la société est en crise, les formes d'expression culturelle ne le sont pas. La culture et la création artistique se développent actuellement en Argentine de manière étonnante, peut-être justement parce qu'elles font partie de ce mouvement de résistance.
L'expression culturelle, enfin la création artistique et culturelle, revêt un aspect politique.
Là par exemple, j'y suis allée donc récemment en janvier, il y a un quartier qui s'appelle La Boca, qui est un quartier assez spécial parce qu'il a un coin très très touristique vers le port. Et puis il a un arrière-quartier très très populaire et assez pauvre. Et c'est un quartier qui a toujours eu une réputation d'être un quartier très dangereux où les jeunes font n'importe quoi, ils dévalisent les touristes, c'est le bordel, etc. Faut pas y aller, c'est très dangereux. Et moi j'y suis allée plusieurs fois parce que c'est un quartier que j'adore. Et on voyait les jeunes sur des terrains de foot qui étaient là avec des percussions et qui montaient des murgas. C'est un phénomène qui renaît beaucoup en ce moment là-bas. Ça serait l'équivalent un peu des batucadas brésiliennes. Il y avait plein d'enfants de tous les âges avec aucun encadrant. Ils étaient là sur le set de foot à faire des percussions quoi, dans la rue, à jouer ensemble. Il y avait les plus grands qui apprenaient aux plus petits. Il y en avait qui étaient sur des bidons en fer, sur des poubelles, ils tapaient tous ensemble, quoi. Et c'était hyper beau, en plus, ça sonnait super bien, il y avait vraiment une... Ils se donnaient là-dedans, quoi, ils mettaient vraiment leur énergie là-dedans. Et je me disais, mais putain, si on pouvait arriver à ça dans les banlieues en France, qu'est-ce que ça serait bien, quoi.
Et puis, en fait, souvent, en période de crise, on remet en cause aussi toutes les institutions, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles, il y a cette remise en cause. Il y a une partie de la population qui pense que s'il y a une crise, ça veut dire qu'il y a un problème avec ces institutions. Et que c'est peut-être ce moment permet de repousser et de voir ce qui fonctionne ou pas et de les questionner, de les interroger. Et c'est un peu ce qui se passe en Argentine. Enfin, c'est ce qui me semble qui se passe, notamment avec le cinéma, qui, je pense, questionne toutes ces institutions, la question du rôle de l'État et de la manière dont il est organisé et géré.
Il y a ça, et puis il y a aussi des universitaires qui se sont inscrits dans ce projet-là, qui pourtant, eux, pour le coup, ils ont leur vie d'universitaire, ils auraient très bien pu... En France, c'est assez dur à imaginer que des profs de fac s'investissent dans des trucs comme ça. Là-bas, il y a vraiment une dynamique aussi qui vient de l'institution d'une certaine manière ou de personnes qui de milieux sociaux assez différents et qui font des choses ensemble quoi, qui se disent bah ça va plus possible, il faut qu'on reprenne les choses en main et qu'on On propose autre chose de nous-mêmes. Et ça, c'est hallucinant, quoi.
Et par exemple, Miguel Ángel Estrella, déjà, il vient du nord de l'Argentine. Et il a fondé un truc qui s'appelle Musique Espérance, qui est quand même assez intéressant. Et qui a, bon, il est implanté partout en Argentine, mais qui a une grande importance dans le nord-ouest de l'Argentine. Musique Espérance, c'est en fait, c'est mettre les instruments classiques à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, il va s'installer dans un bidonville, il amène violon, contrebasse, piano et tout ce qu'il faut. Et des profs, des intervenants qui viennent enseigner aux enfants. Bon, ça aide d'une part à faire remonter l'estime de soi, on va dire, puisque quelqu'un s'occupe des... Si c'est des enfants qui ne vont même pas à l'école, des fois, donc quelqu'un qui vient s'occuper d'eux, c'est quand même révalorisant. Et en même temps, il nous a raconté qu'en fait, dès là, il y a pas mal de profs de musique qui sont... Puisque ça existe depuis un bon moment, hein, c'est pas avec la crise que ça a démarré, ça existe depuis qu'il est sorti de prison, en fait, en 80.
Il y a la culture officielle, reconnue, avec des guillemets, qui est subventionnée ou qui, en tout cas, a les possibilités de se reproduire. Et il y a la culture populaire, très importante, très développée. Et notamment, depuis quelques années, il y a vraiment un boom de la culture populaire argentine, des initiatives de quartier, initiatives associatives, initiatives dans les bidonvilles. C'est assez incroyable. Et on avait quand même envie de rendre compte de ces deux cultures-là à travers le festival. Et aussi, on a une troisième, c'est la culture des Argentins en exil, qui est quand même très représentée aussi pour des questions pratiques, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire venir des gens de là-bas, quoi, malheureusement. Ce qui est intéressant aussi, à la limite, il y a peut-être une quatrième culture qui est représentée par les enfants d'Argentins, par la deuxième génération d'exilés. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est encore un autre regard sur l'Argentine. Donc des gens comme David Futterman ou le groupe Madre Selva, nous, on est enfants d'Argentins. Il y a aussi Michel, qui est un fils d'Argentin qui fait partie de Solal, qui s'est beaucoup investi dans l'organisation du festival. Voilà.
Dans le festival de 2005.
Solal. Ni fait ni affaire. Côte des Rannes. Tout le monde avait des idées, ça s'est rajouté. Notre action.
La dimension militante.
Un moment de parole assez important. À la fin d'un film, dans un débat, ou la place publique dans son sens initial.
Mettre en place un partenariat.
Bon, il y aura les concerts, les Madre Selva, les gens, ils vont chanter du folklore. Hein. Les tangos à Buenos Aires.
Moi, je fais partie de Contresens aussi.
Dans les grands bailes argentinos. La Mateada, toujours présente. Laura Falcoff. La soirée du CCO. Paula Estrella. Pierre Vidal-Naquet.
Très en contact avec eux.
Tango des Soies.
Des petites rencontres.
Claudia Stavisky. Tango. Et César Strozio, qui est un ami. Bon, les danses du nord de l'Argentine.
J'espère qu'on va éviter ces stéréotypes.
Argentine, mémoire d'un saccage.
À la fourmi rouge.
Après la Mateada.
L'association pour le cinéma de Zola à Villeurbanne.
Ni fait ni affaire. Zola. Côte des Rannes.
Ni fait ni affaire.
Lié affectivement.
Nos envies aussi, nos attentes.
Le but de cet aller-retour est d'essayer d'utiliser la culture comme un moyen d'accès privilégié à l'Argentine d'aujourd'hui. La culture comme reflet de la réalité argentine. Cet événement prendra de nombreuses formes artistiques et culturelles, étalées sur 10 jours. Un ensemble d'événements hétérogènes évoluera autour d'expositions d'art plastique, de la musique, du cinéma, de la littérature et du théâtre. mais aussi autour du débat, de la cuisine, de la fête et de la danse. Toutes les formes seront permises et de nombreux lieux seront investis pour créer pendant un moment un espace aux accents et aux saveurs argentins. La situation de l'Argentine sera en filigrane de ces différents événements, mais sans en être pour autant le thème principal. Ce qui compte avant tout, c'est d'offrir au public un accès privilégié à une multitude d'expressions d'une même culture. À lui de se laisser porter.
Donc, je m'appelle Guillaume Biennier, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en économie sociale à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Donc, je fais partie de l'association Ni fait ni affaire. Donc, c'est une association qui est née il y a quelques mois, donc en fin 2004, et qui est en fait qui est la filiation du collectif d'étudiants qui avait organisé l'année dernière un festival, enfin des rencontres qui s'appelaient Crise Argentine, réponse alternative.
En ce qui concerne le Trad des Rades, c'est une asso qui est née en 2000 à peu près.
Yael Epstein.
Elle est née de la rencontre de plusieurs personnes. Enfin, des personnes qui avaient un questionnement sur les musiques traditionnelles, sur les musiques du monde, une réflexion autour de ça, une volonté de les faire connaître différemment, de lutter un petit peu contre les idées préconçues qui tournent autour de ces musiques-là, par le biais de la diffusion, d'une part, et par le biais de la pratique collective. Donc après, plus concrètement, on a commencé à mettre en place des petits concerts dans les bars. C'est pour ça que ça s'appelle le Trad des Rades. On avait envie que le public de proximité, le public d'un quartier, notamment les Pentes de la Croix-Rousse, mais pas uniquement, puisque maintenant on est pas mal sur le 7e aussi, que ce public-là puisse connaître, rencontrer d'autres musiques. Il se trouve que moi je suis d'origine argentine, mes deux parents sont argentins, j'ai gardé beaucoup de liens avec ce pays-là, et que ça m'intéressait beaucoup de monter une programmation culturelle et politique sur l'Argentine. Je connaissais l'association Solar, parce que c'est un peu une histoire de famille aussi, mon père fait partie de l'association Solar, donc Solidarité avec l'Argentine. Et un jour on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un événement un peu plus important, puisque Solar avait déjà fait des petites programmations d'un soir ou deux, ponctuellement, qu'ils avaient envie de faire un truc un peu plus gros en sachant que Miguel Ángel Estrella était partant pour venir à Lyon. Donc ils avaient envie peut-être de faire un événement un petit peu plus conséquent. Il n'y avait pas forcément le savoir-faire et tout seul, ils ne se voyaient pas monter tout ça. Moi, par ailleurs, je me disais qu'avec le Trad des Rades, ça serait intéressant qu'on se greffe sur ce projet-là. Et puis il y avait aussi donc Ni fait ni affaire, qu'on avait rencontré lors de leur festival à eux à l'université Lyon 2, à Bron. On s'est rendu compte qu'on était sur des manières de voir les choses très proches et on avait un peu les mêmes préoccupations, les mêmes désirs de faire connaître des alternatives culturelles et politiques en Argentine, de les faire connaître ici. Donc ça a germé l'an dernier, il y a à peu près un an. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne se réunit pas les trois associations pour essayer de monter quelque chose ensemble ?
Je suis d'origine argentine.
Sara Carrizo.
Et je suis venue en France au moment de la dictature militaire, en 75. Fin 75, c'était juste avant les coups d'État. Donc moi, j'ai fait de la traduction. Je travaille avec Interservices Migrants, qui est une association qui s'occupe de faire des traductions pour les immigrés, c'est-à-dire que les tarifs pratiqués sont vraiment à prix cassé parce qu'on a analysé qu'en fait les traducteurs demandent beaucoup trop d'argent pour les traductions, pour les gens qui viennent juste d'arriver et qui n'ont souvent pas les moyens. Et donc, comme j'ai fait des études en langue, j'ai été attirée par cette assos pour travailler avec. Et donc, on fait des interventions avec les demandeurs d'asile, avec toutes sortes d'immigrés. Moi, je suis spécialiste en Amérique latine. Voilà. Depuis qu'on est arrivé en France, il y avait un noyau d'Argentins. On était des amis, puisqu'on était arrivés tous plus ou moins pour les mêmes motifs. Et donc, on se voyait assez régulièrement, mais par amitié. On se réunissait. Moi, j'ai fait partie d'une émission des radios sur Radio Canu, et où on donne des infos concernant l'Amérique latine en général. pas seulement l'Argentine. Et à un moment donné, une de nos amies qui était rentrée en Argentine, qui vit en Argentine, elle est venue en France. Et puis, elle est linguiste. Elle avait travaillé dans une communauté dans le nord de l'Argentine pour transcrire les dialectes, en fait. Et donc, quand elle est venue présenter ici son travail de linguistique, et elle est venue nous voir, on a discuté, et puis elle était mais vraiment incroyablement touchée des conditions matérielles des gens, et de la faim, de la malnutrition des enfants et tout ça. Donc, elle nous a demandé d'organiser une réunion avec tous les Argentins qu'on connaissait sur Lyon pour qu'elle puisse nous raconter cette histoire. Et c'est suite à ça que, puisqu'il y avait eu la crise en 2001 en Argentine, on s'est dit, ben, évidemment, il faut faire quelque chose. On va essayer de récolter des fonds et d'envoyer. Et dans un premier temps, on n'a pas pensé à nous constituer en tant qu'association. On s'est dit, on va le faire. On va envoyer de nos salaires, de l'argent comme ça pour aider. Puis après, on a vu que c'était très difficile de fonctionner si on ne légalisait pas tout ça parce qu'il fallait envoyer de l'argent ou des affaires, des livres ou des choses comme ça. Et il fallait quand même un trésorier et tout ça. Et donc, on a déclaré notre association. C'est comme ça que Solar est né. En fait, on a décidé que notre action serait plus ou moins en parallèle aux actions parce qu'on lit les journaux par Internet, on lit les journaux et on voit qu'il y a beaucoup d'interventions de l'Église catholique. Et nous, on s'est dit, bon, on va pas faire ça. Nous, on va aider à des gens qui vont se procurer un moyen de survie. C'est-à-dire, on va pas envoyer des vêtements pour que les enfants s'habillent. On va envoyer plutôt de l'aide aux parents pour qu'ils puissent travailler. C'est-à-dire, par exemple, on a fait déjà... Il y avait un bidonville qui avait des problèmes. Personne n'avait du travail. Et les maisons étaient en carton. Ils avaient demandé aux étudiants de l'université à Buenos Aires de les aider à construire des maisons en dur, solides. Donc, les étudiants nous ont fait parvenir ces projets. Et nous, on a acheté une bétonneuse pour qu'ils puissent fabriquer leur maison. Mais la condition, c'était qu'ensuite, ils l'utilisent, cette bétonneuse, pour créer des blocs en béton et pour les vendre ou les échanger, les troquer. On essaie de faire nos actions avec des gens qu'on connaît là-bas. Parce qu'on voyage assez souvent en Argentine, donc on amène nous-mêmes l'argent. On achète le matériel qu'on nous demande et ensuite on le laisse sur place avec un responsable qu'on connaît ou les gens, on fait confiance aux gens qu'on a connus par les biais des Solars et qu'on considère qu'ils sont quand même fiables. En fait, ni fait ni affaire, les gens de ni fait ni affaire, ils étaient partis en Argentine pour faire quelque chose. Je ne sais pas si ça avait quelque chose à voir avec les études qu'ils font, mais toujours est-il qu'ils sont allés en Argentine et ils ont été très touchés par les usines occupées. Et donc, ils ont trouvé que c'était vachement intéressant. Quand ils sont rentrés à Lyon, ils ont entendu parler de Solar, ils se sont approchés une première fois. On a eu quand même pas mal de points en commun dans les discussions. On a eu une sympathie, puisque c'est des gens très, très ouverts et très sympas. Donc, ils ont organisé un week-end ou une semaine à Lyon 2, où ils avaient parlé justement de leur expérience argentine. Et à la fin de la semaine, ils ont fait une fête de clôture. Et les bénéfices de cette fête, ils nous ont contribué avec cela, avec l'argent, pour qu'on puisse envoyer en Argentine. Donc, c'est déjà un point très favorable. Et du coup, ils sont toujours très au courant de ce qu'on fait. C'était presque une évidence qu'on pouvait travailler ensemble pour cette semaine. Et c'était peut-être leur initiative, hein, il me semble. Et puis, dans l'autre association, les Trades de Rade, on avait déjà discuté, puisque c'est César Strozio qui est un ami, Il devait venir il y a un certain temps sur Lyon et on avait dit bah, pourquoi pas pour Solar faire un truc. Et Trad de Rad avait dit si jamais vous faites un truc, vous nous dites parce qu'on peut peut-être vous aider à trouver des salles ou travailler ensemble tout simplement. Dans cet assos, il y a la fille d'un des Argentins qui fait partie des Solar. Donc les liens sont très, très étroits entre les trois assos. Soit familiaux, soit affectifs. Quoi. On est devenus des amis au fil du temps. Donc, voilà.
Il y a deux grosses soirées au départ, le 1er et le 2 avril. 1er avril, donc, c'est une soirée où il y a un seul intervenant, c'est Miguel Ángel Estrella, qui est un pianiste et compositeur argentin, qui est venu en France, qui a fui l'Argentine à cause de la dictature militaire, et qui est quelqu'un qui a toujours eu une grande implication politique, quelqu'un qui a toujours été très engagé et qui l'est encore d'ailleurs, qui monte notamment des orchestres qui réunissent des personnes de différentes cultures. Il y a eu un projet récemment d'orchestre israélo-palestinien. C'est quelqu'un qui porte un projet politique aussi, par le biais de la pratique musicale.
Alors, je me souviens qu'en 88, j'avais fait ma première incursion dans les camps palestiniens. C'était à Gaza. C'était du temps de la première intifada. Je me souviens qu'à la fin du concert, ce public qui n'avait jamais vu un piano avait un silence comme maintenant. Et j'avais joué un nocturne de forêt. Et quand j'ai fini cette musique, il n'y avait pas d'applaudissements, mais quelqu'un s'est levé pour dire « Cette musique parle d'amour. » Et j'ai eu l'impression, disait-il, que les êtres humains étaient devenus déjà comme il faut, et qu'il n'y avait plus de discrimination, qu'on était tous juifs, musulmans, chrétiens, noirs, jaunes, blancs, la main dans la main, en train de regarder un ciel étoilé en nous disant qu'est-ce que c'est bien de vivre ensemble. J'ai gardé ça comme un souvenir ineffaçable. Et je vais vous jouer pour vous dire au revoir cette musique qui parle d'amour. C'est le troisième nocturne de forêt. Ça ira? Oui?
Oui.
Bon. Oui?
Ah oui, c'est ça. Après, on a eu la soirée du CCO, c'était assez capital, on va dire, assez Buenos Aires, puisque c'était le tango, et que le tango, bien qu'on le danse partout en Argentine, il a un rapport étroit avec Buenos Aires, on l'associe tout de suite. Donc, mais les gens qui jouaient, c'était des gens du Nord, c'est-à-dire Paula Estrella, c'est la fille de Miguel Ángel Estrella, donc elle vient du Nord. César Strozio, la famiglia di César, elle est toute de Tucumán aussi.
Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta, que nos empapan los rostros, que a lo mejor nos morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer. Callado como un niño, bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Je voulais d'abord vous remercier d'être ici. Et vous savez que notre festival a une finalité culturelle, mais aussi une finalité solidaire. Et les fonds que nous avons recueillis grâce à votre présence ici seront versés à Solar, qui va les faire parvenir en Argentine pour aider les secteurs les plus défavorisés de l'Argentine. Je voudrais aussi également remercier les trois associations partenaires qui nous ont beaucoup aidés à organiser ce festival. D'abord, l'association Contresens, qui sont les jeunes qui tiennent la buvette ce soir. Ensuite, l'association pour le cinéma et le cinéma Les Solas, qui nous ont aidés à organiser une soirée de cinéma argentin. Et enfin, évidemment, Tango de Soie. Il y a plusieurs activités que nous organisons autour du tango. Et à chaque fois, Tango de Soie, c'est notre partenaire.
Uy, ahora cambiamos totalmente. Bon, je suis un peu bavarde, alors je vais vous raconter une histoire encore. C'est une milonga. C'est raconté avec beaucoup d'humour, je vais essayer de vous transmettre un petit peu. C'est l'histoire d'un mec qui est encore amoureux de son ex. Et manque de peau, il la trouve, il la rencontre dans la rue. Alors il la voit comme ça, il l'aime encore, c'est sûr. Il lui dit, mais toi, qui t'as vu dans le temps et qui te voit maintenant? Tu t'es marié à un Français en plus. Écoute... C'est sûrement une histoire de fric qu'il y a là-dedans, parce que, tu sais, avant, tu n'avais même pas un matelas où te jeter pour dormir, hein? Et maintenant, tu portes un petit tailleur français, t'as une voiture, mais c'est quoi toutes ces histoires? En te voyant comme ça dans la rue, j'ai qu'une envie, c'est de te foutre une baffe. Et c'est ça le nom de la milonga. Tortazos. Que te hizo meter la pata al diablo fue la alpargata si echaste todo a rodar el afán de figurar fue tu hobby preferido y ahora que tenés marido las cosas que hay que aguantar.
Et ensuite il y a bon les danses du nord de l'Argentine, donc ça c'est la Provence et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais en France. C'est-à-dire qu'en général, qu'est-ce qu'ils vont apprendre comme danse argentine, les gens, c'est le tango. Et là, c'est la chacarera, c'est un truc des paysans, vraiment et très joli à voir et très, très intéressant, mais qui n'est pas très courant en France. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín.
Chacarera.
C'est une danse argentine. Une danse très typique, je pense. C'est pas le tango, mais un folk, comment dit, un folklorique très typique de l'Argentine.
Con el llanto sincopado de mi corazón. Según.
Moi, je m'intéresse pour la culture hispanophone ou hispanique, latino-américaine aussi. Ça a commencé par un intérêt pour la langue espagnole. Et ça continue comme ça. faut se lancer un peu dans la danse. Si on commence avec les choses très très basiques, on ne va peut-être pas arriver à ressentir l'émotion de la danse ou la sensation. Donc je pense que c'est bien pour un atelier comme ça de se lancer. Elle est aussi très, elle encourage, elle dit, je crois que vous pouvez. ça aide aussi.
La chacarera, comme il est si joyeux, on peut dire, si joyeux, si vite, si excitante, on peut dire.
Laura Falcoff, qui est une journaliste argentine et qui par ailleurs enseigne donc ce type de danse-là.
Oui, j'ai une formation générale sur la danse, à la danse. La préposition, c'est très difficile.
Et c'est quelqu'un qui a pris un cours avec vous, là,
oui.
Qui nous a dit que vous aviez une façon d'enseigner agréable, que c'était intéressant, parce qu'on rentrait tout de suite dans l'ambiance de la musique, dans l'univers.
Ah, que bon. C'est très bon pour moi. Merci.
C'est une volonté de votre part de ne pas passer...
Oui, absolument. Absolument. Parce que je crois que la liaison avec la musique, c'est les choses les plus importantes pour danser. Le tango, et la chacarera ou le lac du cygne. Toujours, toujours. Parce que si vous n'écoutez pas la musique, c'est impossible. C'est comme si tu danses avec la radio allumée. Et je danse. Mais la connexion avec la musique, c'est... Et absolument et primaire, primordial.
Ensuite, il y a aussi il y a deux intervenants qui vont venir pour les soirées autour du documentaire. Ils vont se passer de l'autre côté du pont le 5 avril. On avait donc envie de passer des documentaires parce qu'il y en a beaucoup en Argentine qui sont très intéressants et qui rendent compte de projets alternatifs, culturels, politiques, qui essayent de rendre compte de ce qui se passe à ce niveau-là, là-bas. Moi, quand j'étais en Argentine au mois de janvier, j'ai rencontré un jeune réalisateur qui venait de finir de réaliser un film sur une école un peu particulière dans la province de Buenos Aires. Et donc je lui ai demandé s'il pensait qu'on pourrait faire traduire ce film et le passer pendant le festival. Il était d'accord, donc il l'a fait traduire très vite. Et il se trouve qu'il a même réussi à trouver de l'argent pour venir, de se faire financer un billet d'avion. Donc il vient en France pour le festival. Donc il sera présent pour parler de son expérience en tant que réalisateur et parler de ce qu'il a rencontré en faisant ses films. Et il y aura également le réalisateur du deuxième film qu'on passe, qui s'appelle... Le réalisateur s'appelle David Futterman. C'est un enfant, un fils d'Argentin qui habite en France ou qui est né en France et qui est parti, lui, faire un film en Argentine sur différents projets qui sont nés suite à cette crise de 2001, cette crise économique, puis sociale et culturelle. Le film il s'appelle Argentina se vivre avec la crise.
Argentina se vivre avec la crise, c'est la façon de vivre au quotidien. Argentine mémoire dans sa cage, je ne sais pas si vous avez vu les films, mais il parle exactement pourquoi l'Argentine est tombée en crise. Et il montre comment les Argentins se débrouillent pour essayer de s'en sortir. Et donc c'est là il y a les images et donc peut-être les discussions qui vont suivre, les débats.
Il y a cette question d'échange aussi et d'enrichissement mutuel. Enfin, moi je pars pas d'une position on sait tout et on vous donne tout quoi. Enfin, j'espère qu'il va avoir un retour. Ouais. Enfin, que les discussions, etc., vont apporter, vont nous enrichir aussi dans notre réflexion. Et que si ça peut surtout, ce qui est intéressant aussi, si ça peut engendrer d'autres réflexions et d'autres actions, quoi.
El pueblo no se va.
Bon, en fait, Mémoire d'un saccage, j'en avais entendu parler depuis plusieurs mois et j'étais très intéressée pour voir ce film et j'ai pas eu l'occasion de le voir avant et je suis très contente de l'avoir vu ce soir parce que je pense qu'il est, c'est une excellente illustration de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la globalisation libérale et économique.
Enfin, je suis très déstabilisée parce que moi d'abord la culture c'était le tango argentin, ça fait 6 ans que je danse le tango argentin, donc la culture ça allait avec, mais ça m'a laissée un peu froide sur l'Argentine. Là, maintenant j'ai une espèce de recul et j'ai pratiquement la nausée quoi, en sortant de ce film, ça me donne pas du tout envie d'aller en Argentine.
Il y a quelques années, quand il y a 3 ans, donc il y a eu ces événements-là, on en a un petit peu parlé en France, mais le film justement nous permet d'approfondir et surtout d'avoir une analyse historique et politique beaucoup plus précise, pointue, nous permet de comprendre quels sont les liens entre le politique, l'économique, entre les organismes internationaux, le rôle du Fonds monétaire international et évidemment toute cette élite, on va dire, économique qui dirige le pays et avec aussi les multinationales. Par exemple, on parle concernant la France, par exemple, de France Télécom. Donc,
ah bah énorme, ouais. Énorme, bah ouais. Bah, enfin, je sais pas, c'est quand même assez clair hein, dans le cul l'implication... des entreprises françaises en Argentine, l'ouverture des marchés, ils en ont quand même apparemment grandement profité. Enfin, ouais, ça a l'air assez, assez fort, quoi.
En participant, en fait, à la ruine du pays, puisque France Télécom, donc, a profité, on va dire, de la privatisation de tous les services publics argentins. Donc, je pense qu'effectivement, ça préfigure de ce qui pourrait nous arriver ici en Europe ou en France.
On n'a pas aussi faim qu'eux. Enfin, il n'y a pas... autant de personnes qu'on faim et pour autant on part un peu sur la même voie quand même de cette fracture, enfin de ce système à deux vitesses dont tu parles, je pense, à beaucoup de plus en plus.
Dans les rues en décembre, on l'a vu un petit peu sur France 2, sur les journaux et tout, sur les journaux. Mais sinon, c'est vrai qu'on sait pas grand chose en fait. Donc là, c'est clair, ça nous a bien ouvert les yeux. Tout ce qu'ils ont comme bœuf, tout ce qu'ils ont comme nourriture, ils arrivent même pas à nourrir 34 millions de personnes en fait. Quand on voit le taux de chômage, quand on voit des gosses qui crèvent de faim, ça va pas ensemble en fait. On aimerait bien aider, faire quelque chose, mais c'est vrai qu'on est un peu...
Mais en fait, moi, ce qui m'étonne dans ce débat, c'est qu'on se concentre essentiellement sur l'Argentine. En disant, mais les Argentins, vous pouvez pas réagir un peu, il n'y a pas de partis qui peuvent réagir, la gauche, elle n'existe pas en Argentine, comment ça se fait? Mais en fin de compte, si on se regardait un peu plus, qui réagit chez nous aussi, quoi? Est-ce qu'on va réagir, on va s'apitoyer sur le sort des Argentins, sur la pauvreté, sur les enfants malades, etc. Mais je pense qu'il serait intéressant effectivement de réagir, de prendre ça effectivement comme exemple et de réagir sur nous, quoi.
Ouais, il pourrait se dire ça peut pas être pareil chez nous, mais on sait pas.
Herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados.
Pourquoi organisons-nous ce voyage? Parce que la culture et la création artistique argentine sont riches, mais méconnues, et que nous voudrions la partager avec les Lyonnais, la faire connaître.
Oui, pour savoir aussi, pour mieux connaître l'Amérique latine, enfin, pays là qu'on n'entend pas forcément parler beaucoup ici, quoi.
Des festivals comme ça, c'est vachement d'informations, quoi. Ça sensibilise, après ça change pas radicalement le truc, mais que ça responsabilise, quoi. Je pense qu'il faut, quoi. resensibiliser les gens à la politique, ça passe aussi par des trucs comme ça, un peu qui sont pas forcément de notre pays, mais qui, voilà, qui dans lesquels on trouve un écho.
C'est un beau pays, l'Argentine, et donc déjà ça amène au... Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les films, il y a aussi la littérature, il y a les danses argentines, et donc ce festival il sert à ça, à faire découvrir toute la culture argentine, tout le pays politique, tout ce qui s'est passé en Argentine. Et donc ouais, ça aide un peu à ouvrir les gens, pour ouvrir l'esprit un petit peu.
Les choses ne sont pas tout à fait résolues. Donc pour nous, c'est très important qu'on puisse parler de tout ce qui se passe, parce que dans la vision du monde, c'est-à-dire, on a changé de président, les gens pensent que puisqu'il y a pas mal de mesures qui ont été prises dans les sens positifs, les problèmes sont réglés. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, puisque nous, on va assez souvent, voilà. Il y a des gens qui travaillent même en lien avec l'Argentine, qui vivent en France, qui vont et qui... On voit à chaque fois qu'on va dans un café, il y a plein d'enfants qui rentrent pour demander de quoi manger, et donc ils se font virer. C'est toujours... C'est quand même, on sent la misère dans les rues. Donc on considère que la chose n'est pas tout à fait résolue, qu'il faut continuer à parler de la très mauvaise situation de pas mal de gens de la population argentine.
On se rend compte aussi... Parce que ça fait un an qu'on travaille sur ce festival, qu'on en parle autour de nous tout le temps. Et là, depuis deux semaines, on distribue les tracts, on colle les affiches. Et on se rend compte que ça a un impact, ou en tout cas une réaction positive de la part des gens. Et que rien que ça ouvre la discussion sur l'Argentine, sur ce qui se passe là-bas. Enfin, moi, j'ai jamais parlé autant de l'Argentine que cette dernière année, en montant ce festival, quoi. Rien que ça, c'est super.